I got glue and chore pour I to the pipe of it.
L'écho du parquet, l'émission qui met le feu au plancher.
À la vacante, j'ai dit te peux pas m'engarer, pas m'engarer.
Votre rendez-vous radiophonique des musiques et danses traditionnelles.
La petite son chapeau, une belle plume de haut. Pas m'engarer, pas m'engarer.
Mais si l'amour prend la racine dans mon jardin, j'en planterai. Dans mon jardin, j'en planterai mes aux quatre coins. J'en ferai pas au nom de qui en auront besoin.
Elle est pas mal.
Bonjour et bienvenue dans l'écho du parquet. Comme d'habitude, vous nous retrouvez sur Radio Méga, sur Fréquence 7, sur Radio Saint-Féréal ou en podcast sur notre audioblog Arte Radio. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale, donc on va toujours parler de musique traditionnelle, de danse, de lutherie un peu aussi, vous verrez, puisque il s'agit d'un reportage en immersion au Festival du Son Continu qui se tient dans le Berry. Pendant 4 jours chaque année au mois de juillet, donc voilà, c'est un peu une carte postale qu'on vous propose aujourd'hui. Vous pourrez entendre La Dériveuse, vous pourrez entendre Ardente, ou un groupe grec, Police Ensemble, donc on vous remettra tous ces liens sur notre descriptif d'émission. Et puis, bien sûr, vous pourrez entendre un paquet de bœufs et de musiciens qui n'ont pas donné leur nom et qu'on a attrapé à la volée. Voilà, bonne écoute, c'est parti pour le son continu.
Quand je suis arrivée hier, je disais du coup à mon ami qu'on se croirait un peu dans Harry Potter 4, la coupe de feu, le tout début quand, pour la coupe de Quidditch. Et du coup, ça faisait vraiment ambiance Harry Potter, plein de magie, plein de monde, plein de mouvements, plein de couleurs où ça bouge dans tous les sens, ça danse, il y a de la musique.
Il y avait des balais, des gens dessus.
Ben en fait, on pouvait se l'imaginer quoi.
Mais c'est que ça en fait, il manquait que les balais avec les gens dessus.
Je sais pas, dans un monde un peu fantastique, moi je le vois un peu comme ça, parce que c'est vrai que quand on est, citadine, il y a un truc où c'est un autre univers aussi, une autre ambiance, un autre rythme.
Ouais, relativement souvent. C'est-à-dire presque tous les ans quand je peux.
Et tu viens pour jouer ?
Je suis pas programmé, mais je viens pour voir les copains, pour voir les... voilà. Okay. Et jouer un peu en bœuf, voilà.
Et pourquoi ce festival particulièrement ?
Merci beaucoup.
J'aime bien parce que bah, déjà il y a le fait qu'il est luthier, l'endroit qui est quand même sympa. Pour moi c'est le premier un peu de l'été. Et puis voilà, il y a un peu tout le monde qui vient ici, de toutes les régions, ce qui est sympa. Ça permet de voir des gens un peu en même temps de partout. C'est une espèce de grand bordel, pas organisé justement.
tu le trouves, c'est pas organisé.
Si, c'est organisé, mais c'est pas non plus complètement. Comment dire, tiré. C'est ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même de l'espace pour s'exprimer. C'est un mélange entre. Justement. Qui permettent d'avoir en même temps des trucs programmés et de l'espace pour le off.
C'est ma fille, ma grande fille qui m'a invitée à y venir. Elle y est allée l'année passée. Et puis voilà, elle a pris plaisir. Elle m'a complété plein de belles choses.
Si vous vouliez décrire à quelqu'un en quelques mots ce que c'est que ce festival et pourquoi vous l'aimez. Pour l'instant.
Bah écoutez, là je prends beaucoup de plaisir à danser, c'est d'une grande simplicité, les gens sont adorables, les gens sont souriants, fantastiques, tous les âges sont mélangés, c'est agréable, c'est un vrai plaisir de danser.
Un festival pour retrouver plein d'amis aussi pour danser. Et pour le coup, moi j'aime bien danser du néo-folk, des choses très improvisées, et ici c'est très trad, mais c'est une autre ambiance aussi, donc on s'ouvre à d'autres choses.
En fait, après on va à Argentine, donc ça permet de rester déjà dans la région en attendant de. Voilà. Ça permet de danser un peu et puis faire le tour en attendant Argentine. Quoi. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Maxou, c'est un surnom. Je joue de la vielle, la cornemuse et d'autres instruments. Je suis membre du groupe La Chavanée depuis une quarantaine d'années, groupe de musique du Bourbonnais, et je participe au son continu, donc depuis le début du son continu il y a 10 ans, mais j'étais là depuis bien plus longtemps. Donc en 1976, pour le centenaire de la naissance du décès de George Sand, pardon, un festival a été. C'était même pas un festival, c'était une fête qui était destinée à être unique, qui était orientée sur le milieu folklorique dans un imaginaire sandien, donc les groupes folkloriques Berrichon. On a réussi à trouver péniblement 10 luthiers en vielle et cornemuse pour cette première année. Et la surprise des organisateurs, c'est qu'est arrivé des gens qu'ils n'avaient pas prévus, à savoir, à l'époque, on va dire, des post-68ards, les premiers folkeux. Et surprise, abondance de monde venu de loin. Et donc, le festival a continué en prenant de l'ampleur, de concerts luthiers dans un parc et à l'extérieur du parc, dans les rues du village, des balles toute la nuit. Voilà, c'était assez équilibré et on était donc dans un imaginaire sandien, c'est-à-dire que beaucoup de gens avaient lu Les Maîtres Sonneurs, ouvrage recommandable s'il en est, et s'imaginaient être dans le roman quand ils dansaient sur la place de Saint-Chartier. Voilà, donc c'est cette chose-là qui a lancé l'affaire. Après, c'est devenu une très grosse machine et on est arrivé un petit peu autour des années 2000 à une situation difficilement gérable, c'est-à-dire qu'on estimait à peine 20% des visiteurs du village, ceux qui rentraient effectivement dans le parc. C'est-à-dire qu'ils payaient une entrée, qu'ils participaient à l'économie du festival. La plupart des autres campaient et dansaient dehors. Gratos, voilà. C'était très agréable, très festif, mais c'était pas viable économiquement. Et d'autre part, bah, il fallait bien reconnaître qu'il y avait une faune festivalière au sens des festivals de musique comme on en rencontre partout, qui faisait un peu peur à la population locale. Et donc, je ne me rappelle plus l'année exacte, mais autour des années 2000, le propriétaire du château a décidé de vendre. C'était racheté par un nouveau propriétaire qui, lui, ne voulait plus prêter le parc pour le festival. Et donc, ça a été une sorte de chance. On a déplacé le festival de 5 km dans ce château qui appartient, le château d'Ars, qui appartient à la municipalité de La Châtre. Et où, alors évidemment, on a perdu le village. Mais on a essayé de la recréer avec des producteurs de nourriture locale et de choses pour qu'il y ait quand même cette ambiance de rue de village. Et en maintenant un accès très peu cher. L'accès qui était à 5 euros au début, maintenant qui est à 8. C'est pour que des gens viennent, je dirais en tant que touristes, visiter ce salon de lutherie, prendre du temps à écouter de la musique, voilà. Alors, au risque de choquer les auditeurs, je peux vous confier un secret, la danse n'est pas au centre du son continu. Le son continu est un rassemblement d'artisans d'art qu'on appelle des luthiers. Et autour de ces luthiers et de leur production, on décline tout ce qu'on peut faire avec, de la musique bien sûr pour écouter, pour danser, mais aussi apprendre à connaître ces instruments dans des conférences où on parle de l'histoire des musiques et des danses. Des festivals qui mêlent concerts et bals, il y en a d'autres, dans d'autres contextes. Mais la présence des luthiers, la présence centrale des luthiers, ça c'est l'originalité. Ça c'est vraiment la particularité.
Traditionnellement, dans tout Limousin, la Dordogne, Basse-Marche, un peu vers le Poitou, voilà. Donc je vais vous présenter cet instrument que je fabrique. Donc je suis au stand numéro 60. Je fais des recherches sur cet instrument depuis 35 ans à peu près. Et puis fabrication et enseignement au conservatoire de Limoges.
C'est la cornemuse irlandaise. Et Small Pipe, c'est une cornemuse de chambre écossaise. Je vais commencer par le Small Pipe. Par le Small Pipe, c'est un instrument qui a été ressorti un peu des musées par un Écossais ou un Anglais, je ne sais plus. Et en fait, alors c'est un gros avantage, c'est qu'en fait on utilise les mêmes doigtés et la même technique que la grande cornemuse écossaise. Pour ceux des joueurs de cornemuse écossaise qui veulent un instrument un peu moins sonore, qui permet de jouer avec d'autres instruments, c'est un vraiment super instrument pour ça. Alors je vais vous jouer un morceau en fait où, qui va me faire. Je vais partir du même morceau que je vais jouer que avec la partie mélodique au practice 7. Après je vais rajouter les bourdons au retour et la troisième fois je vais le jouer avec les régulateurs. Comme ça vous allez voir les possibilités au fur et à mesure qu'on ajoute les parties d'instruments.
Il y a 60 touches, donc c'est sur un piano il y a 88 touches, donc c'est 75% du nombre de touches qu'il y a sur un piano, mais là c'est beaucoup plus transportable, ça tient dans une feuille A4. Okay. Moi je sais que c'est un instrument que j'ai déjà utilisé pour commander des rideaux dans des théâtres par exemple. On peut assigner des touches à de la musique, mais aussi à des moteurs, des ventilateurs, des tas de choses en fait. Et on peut l'utiliser pour de la domotique.
Alors je m'appelle Philippe Berne et je fabrique des instruments à cordes frottés et pincés et quelques percussions. Voilà, j'ai la particularité de dessiner mes instruments, c'est-à-dire que je reproduis pas. Donc voilà, c'est pour ça que souvent les gens me disent mais vos instruments ils sont différents, ils viennent de voilà, ils sont pas si différents que ça, mais je m'autorise à en changer la forme. Voilà. Alors, moi, je crois que je suis venu en 2001 pour la première fois. Et puis, d'abord, quand j'ai commencé jeune luthier, donc ici, c'était super pour rencontrer tous les autres. Donc, il y a une grosse rencontre, un gros partage quoi, de connaissances qui est super, de musique, bien sûr. Et puis donc, voilà, maintenant, ça fait un sacré moment. Et c'est un rassemblement, si tu veux. Annuellement, on vient voir tous les copains. Et ça, c'est important aussi. Et puis bon, il y a quand même une grosse masse de clients. Hein. Je crois que c'est le plus gros rassemblement du monde en termes d'instruments de musique traditionnelle. Donc la journée, là, on travaille beaucoup. Il y a beaucoup de monde. Mais bon, on se retrouve d'abord une journée avant. On s'installe l'après-midi. Et le soir, il y a une grosse bouffe entre luthiers. Donc ça, c'est quand même chouette. Et c'est un moment où on partage, et on partage évidemment nos travaux. Quoi. On parle de ce qu'on fait, sur quoi tu bosses, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé tel matériau, j'ai fait une combinaison intéressante. On a envie de ça aussi, tu vois, de se confronter un peu. Je ne suis pas le seul à faire de la recherche, hein. Donc c'est toujours intéressant et c'est motivant aussi. Ça donne du sens aussi au fait de chercher, quoi.
Et est-ce que c'est un moment épuisant, 4 jours de son continu pour les luthiers, entre l'installation, le travail, le fait de montrer en permanence des instruments et la fête que vous faites le soir, j'imagine?
Et la bière. Alors oui, c'est épuisant. Avec le temps, je me couche de plus en plus tôt pour arriver au bout.
Thank you.
Le son continu, ça vous donne le tournis ?
À nous aussi.
Une tonne 5 de frites ou 40 mètres cubes de sûre. Et surtout 20 000 festivaliers.
Nous faire grandir, c'est nous condamner. Grosso modo à la louche, on est sur 20 000 spectateurs sur 4 jours. 5 000 personnes sur le parc sur une journée. Voilà, ça fait du monde. Et par exemple, cette année, les camarades ont travaillé d'arrache-pied en mai-juin pour fabriquer des cabines de toilettes sèches supplémentaires, voilà, pour augmenter le confort. On essaie d'augmenter le confort plutôt que d'augmenter la taille, quoi, de mieux organiser les choses. C'est un sacré boulot.
Vous faites un contre-balle ?
Non, nous avons fait un soundcheck.
Ok.
On a fait un soundcheck avec grand succès d'ailleurs.
En fait, le contre-balle, c'est pas nous, le contre-balle, c'est eux là-bas. Alors cette année, nous sommes en touriste. Mais l'idée, c'est de un peu voilà, se faire remarquer, on va dire. Et on va tenter la scène là-bas. Là. On s'est inscrit, mais on attend le tirage au sort. C'est scène découverte, alors c'est une scène assez grande et puis on est amplifié, donc c'est sympa. Et notre formation s'appelle Balia. Et voilà, on est assez frais, nouveau. C'est ça, on attend le tirage au sort. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si c'est pas demain, ce sera après-demain. Et si c'est pas après-demain, ce sera pas grave. Parce qu'il y a plein d'autres scènes où on peut jouer, donc c'est pas non plus. Mais ce serait cool quand même.
Ouais.
Je sens pas l'esprit de compétition, quoi.
Ouais.
Puis après, on a quand même quelque chose qui est assez. Qui sort un peu du lot. Il y a des bandes souris, une harpe celtique. C'est pas non plus un accordéon, quoi. Dans le sens où c'est moins répandu, donc. Peut-être qu'on a moins la pression, on se fait remarquer assez vite avec les instruments qu'on a, quoi. Donc bon, on est bien lotis par rapport à ça. On va jouer à 3h du matin, après les balles, dans la forêt là-bas, il y a le petit parquet dans la forêt là.
Comment ça se fait concrètement dans l'organisation du festival, ce côté émergence de groupe ?
D'une part, la programmation toute simple, il faut être originaux, être en avance sur l'événement et pas en retard, trouver des idées de groupe qu'on va chercher assez loin. Encore une fois, le budget fait que, entre guillemets, on peut se payer les originaux, on va quand même pas acheter des copies françaises, quoi. Voilà, quitte à avoir des musiques d'Europe de l'Est, on va les chercher là-bas, quoi. Voilà, des choses comme ça. Sur l'émergence, il y a la scène participative dans la cour du château, où des groupes s'inscrivent, jouent bénévolement, on le paye à boire, il n'y a pas de problème, tout ça. Et après, on écoute. Et les années suivantes, c'est ces groupes-là qu'on va retrouver sur les scènes de bal, où là, ils auront un cachet, ils seront engagés et ils figureront sur l'affiche. Donc on a ce système à plusieurs étages. Et également, une particularité qu'on peine à maintenir, c'est les concours d'instruments qui étaient dans l'imaginaire sandien. On s'affronte en des joutes amicales. Et l'idée n'est pas de gagner, mais d'être là-dedans. Moi, j'ai connu des années où on décernait des prix de participation à des débutants, des prix d'encouragement. Et le jury avait un rôle très pédago de dire « c'est bien ». Et on voyait les gens monter d'année en année. Pour l'instant, on en est à une formule où le gagnant du concours solo ou ensemble joue sur la grande scène le soir même. Et l'expérience montre que, allez, 3-4 ans après, ces gens-là, on les retrouve programmés, soit en concert, soit en bal.
Moi c'est Jonathan, donc je suis un des sonorisateurs de la scène de la Pommeraye. Je suis arrivé mercredi matin, on a monté toute la partie lumière et son, enfin surtout son parce qu'il y a peu de lumière, sur la journée du mercredi. Et depuis jeudi midi, on est à fond dans le festival avec Hubert et Anthony. Moi qui suis sonorisateur et pas du tout dans le trad, ça me permet de sonoriser des violas rouges, je fais pas souvent, des cornemuses, des choses que j'ai pas l'habitude de sonoriser sur de la musique actuelle ou des choses comme ça, quoi.
Comment ça se passe quand tu as un instrument que tu connais pas ? Est-ce que c'est une difficulté pour toi ?
Oui, ça va dépendre de l'instrument. Mais non, après c'est une gymnastique, c'est-à-dire que c'est la 6e ou 7e édition que je fais. Donc les deux premières années j'ai beaucoup sué. Et là, ça va mieux. C'est, voilà, après, là, quand on connaît pas l'instrument, il faut surtout, avant de poser un micro, se rapprocher de l'instrument et écouter avec ses oreilles, savoir d'où sort le son, quel type de son ça sort, et demander si ça va être fort avant de coller son oreille dessus. Oui, j'ai cru au début que c'était un instrument à Larsen, moi, la vieille Larousse. Je croyais que c'était des Larsen permanents et je me disais, merde, j'ai du Larsen. Et non, il y a des bourdons dans tous les sens. Enfin bref, c'est oui, effectivement, c'est dur. Mais il y a pire, il y a le chien aussi. C'est... Non, après, il y a des vieilles Larousse qui sont plus ou moins... Mais après, ce qui est rigolo, c'est que sur les scènes ouvertes, on a de l'amateur au semi-pro jusqu'au professionnel. Ce qui fait qu'on a des gens, des fois, qui n'ont pas leur micro, des fois, des gens qui ont des micros qui sont de qualité moyenne et des fois, des gens qui ont des instruments, des super instruments, quoi. Donc, il faut vraiment s'adapter au niveau de l'instrument et au niveau de la personne en termes de professionnalisme sur la sonorisation. Parce que les gens qui viennent au son continu et qui participent aux scènes ouvertes ne savent pas forcément ce que c'est que de l'amplification-diffusion, en fait. Comment ça fonctionne, tout ce qui est micro, etc.
Et une des difficultés peut-être propres à ce festival, c'est le fait que sur ces scènes-là que vous sonorisez, les scènes découvertes participatives, les gens s'inscrivent à la dernière minute, il y a un tirage au sort, je crois. Donc vous n'avez jamais de fiche technique à l'avance pour sonoriser ces groupes-là, et c'est un peu de l'improvisation.
Ouais, c'est ça. On demande au groupe de venir nous voir une heure avant, et en live, on leur fait une fiche technique, en gros, quoi. Ce qu'on peut faire nous avec nos groupes quand on tourne dans l'année, là on le fait en 5 minutes avec eux avec les moyens dont on dispose, parce qu'on n'a pas non plus tous les micros du monde. Donc on fait avec ce qu'on a et avec ce que le groupe nous demande. Et ça marche, oui. Enfin, en tout cas, ça fait 6 ans que ça marche, donc c'est pas mal. Pas 6 ans sans compter le Covid.
Il y a un côté recherche de l'originalité, d'être en phase avec l'évolution des musiques actuelles, aussi oui. Dans le son continu, qui me semble être fort. Est-ce que ça, c'est une volonté de l'organisation?
Oui. C'est une volonté dans l'organisation même topographique, c'est-à-dire le bal de la Pommeraye est un bal assez conventionnel, avec des groupes reconnus, mais qui jouent une musique, j'ose pas dire ordinaire parce que c'est méchant, mais une musique assez dans la ligne. Et dans la cour du château, alors là, on met les fous. Et moi, j'aime beaucoup cette cour parce que voilà, c'est un pied devant, un pied derrière. Ce que je disais, c'est une discussion importante vu les événements récents. Nous faisons une action de création à partir d'un matériau patrimonial. Et en France, quand on parle de patrimoine, on est classé à droite. Quand on parle de création, on est classé à gauche. Voilà, c'est vite fait, mais c'est comme ça. Et donc, on essaie de promouvoir des groupes qui essaient d'inventer quelque chose à partir des matériaux qu'on a amenés.
Il y a combien de personnes qui sont rentrées ce matin, enfin là, cet après-midi?
Là, j'ai tout de tête, 81.
81.
Alors je compte quand ils rentrent et je compte quand ils sortent. Je fais la soustraction, c'est une jauge de 400.
Okay.
Voilà.
Bon, là, on est bon alors.
Ah bah là, on est plus que bon.
Et hier soir, ça devait être...
Hier soir, j'étais pas là. Je viens juste d'arriver sur la position aujourd'hui. Hier soir, j'étais à l'entrée.
Et du coup, toi, t'es bénévole ou tu...
Ah non, je travaille de la société qui s'occupe de surveillance du site, la société Totem.
Okay. Tu viens chaque année, non?
Je viens tous les ans, oui. Je suis amené à aller sur plusieurs sites, de faire de l'événementiel, et tous les ans, le fait de venir ici, j'aime bien parce que je rencontre des gens qui sont déjà très gentils. Voilà, il y a quand même une super bonne ambiance, on sent pas du tout l'agressivité. Et puis le fait aussi d'écouter de la musique que j'ai pas l'habitude d'écouter le reste de l'année. Alors je vous mens pas, hein, le reste de l'année j'écoute pas vraiment pas ce genre de musique, mais le fait de l'écouter là pendant 4 jours et tout, j'apprécie. Voilà. Bonjour madame.
84.
C'est dans la tête. Donc oui, et puis c'est, le cadre il est quand même agréable, hein, que c'est le château, et puis autour de la nature, 5, 6, 86. Donc voilà.
Ok. Et toi tu danses un peu?
Je ne danse pas, mais par contre, je regarde, je vois, ça a l'air sympa.
Voilà, faut s'y mettre. Hein.
Ouais, faut s'y mettre, mais ouais. Non. J'aime bien la danse, c'est vrai que j'aime bien danser, mais ouais, ça a l'air sympathique.
Je connais le festival depuis petite parce que mes parents m'ont emmené et j'y suis retournée un peu plus récemment, il y a un ou deux ans j'y suis retournée parce que je voulais revoir ce festival et là je me suis dit que ça pouvait être bien d'être bénévole que de voir le festival d'une autre manière. Voilà. Très satisfaite.
Et le reste du temps quand tu fais pas des frites, qu'est-ce que tu fais?
Bah, je danse, j'essaye et je dors aussi parce que c'est crevant le bénévolat.
Moi, frites ratatouille et 2 œufs au plat.
Donc, alors attendez, parce que il y a une barquette de frites et une barquette de ratatouille, non, pareil, on les met pas ensemble.
Moi, je veux frites et légumes d'été à la plancha, s'il te plaît.
C'est ça la ratatouille, hein, j'imagine. Ah, légumes d'été à la plancha.
Oui, c'est ça. C'est mais du coup, c'est une barquette moi, sinon, de frites et une barquette. Même. Donc ça vous fait 6 euros.
Ah, ok.
Moi c'est Pietro, je suis italien et je suis revenu ici comme bénévole parce que j'avais fait le festival comme festivalier l'année passée, ça avait été trop bien et voilà, et c'est trop beau. Moi je suis à la buvette et je le vis bien, Enfin, je travaille dans un bar dans ma vie. Alors.
T'as pas l'impression d'être au travail ?
Oui. Oui, mais plus soft.
Comment, pourquoi tu as eu envie d'être bénévole cette année et pas juste festivalier ?
Ben, une question d'argent, parce que ça coûte moins. Et voilà. Et bon, le coût de la vie, c'est plus haut en France. Alors, pour moi, participer à des festivals en France, ça coûte plus. Et voilà, par rapport à mon salaire. Alors, faire le bénévole, c'est pratique.
Là, on a une relative stabilité des subventions. Donc, on a un permanent qui est payé sur toute l'année, mais dont le travail est concentré sur le printemps et l'exploitation du festival. Et pour le reste, ce sont des bénévoles. On a énormément de bénévoles pour le festival, installation, démontage et service pendant le festival, plus de 200 bénévoles. Et ça, on y tient, d'une part parce que ça nous est indispensable, et d'autre part parce que c'est dans l'ADN du festival. Quand on l'a repris, on a dit on veut un festival participatif. Ce n'est pas un festival de consommation. Et pour revenir sur un truc qu'on voyait, qu'on a évoqué, ces bals avec énormément de gens, de grâce, amis danseurs, ne venez pas là pour consommer, venez là pour participer.
Votre programme de l'après-midi.
Et toi,
aucune idée pourquoi tu fais partie de Radio Potin, voilà. Radio Potin du Trad.
Alors, on a 17h conférence et entre, ouais, on regarde les entre, nouveaux groupes.
Pas. On voulait regarder les groupes en bas, mais on ne sait pas, on s'est pas donné la peine encore. Ouais, ouais. Et du coup, là, on va se boire un petit café déjà,
ouais,
ce qui est génial.
Ah si. Non, mais c'est trop stressant, ouais, parce que tu loupes forcément toujours quelque chose.
C'est ça, c'est ça.
Merci, merci d'être là si nombreux, c'est bien, c'est vraiment extra avec ce beau paysage. Donc ce qui s'est passé, d'abord, pour vous dire, je ne donne plus de conférences. Donc celle-ci va être certainement très mauvaise puisque je ne donne plus de conférences, mais vu le cachet faramineux qu'on m'a proposé pour parler ici, j'ai accepté. J'ai accepté parce que Maxou m'a appelé et il m'a appelé quelques temps après le décès de Shane McGowan, le chanteur des Pogues, groupe punk folk irlandais, et Maxou m'a dit, écoute, tu as vu cette espèce de ferveur irlandaise qu'il y a eu au moment du décès de Shane McGowan, qu'est-ce que tu penses de ça, est-ce qu'on peut en parler pour analyser ce phénomène de musique, est-ce que c'est traditionnel, est-ce que ce ne l'est pas, qu'est-ce que c'est que cette musique, pourquoi est-ce qu'il y a une telle ferveur dans la population, au sein, en profondeur, dans la population irlandaise, quand un gars comme ça se casse la pipe définitivement, pourquoi ils sont dans la rue, pourquoi ils chantent ces chansons, etc. Beau sujet, j'ai pas pu résister, beau sujet sur lequel on pourrait parler. Je vais vous parler d'Irlande pour qu'on comprenne ce cas-là.
On tient un stand, donc c'est l'AIPEM, on est une association qui, entre autres activités, produisons des CD de musiciens. Donc pour nous, d'abord c'est notre berceau, c'est notre berceau, puisqu'on est, on est presque des enfants de Saint-Chartier. Donc musicalement, on a appris ici. Et puis, c'est l'occasion, surtout le château d'Ars, de faire nos sorties de CD, de montrer les musiciens sur la petite scène qui nous est prêtée, et puis de vendre leurs CD. Voilà.
De fifres et j'ai vraiment cassé les oreilles à beaucoup de gens, mais à chaque fois que j'en essayais un, on m'en proposait un autre. Il y avait des mâles de fifres, des mâles de flûtes de partout, c'était une forêt de fifres et c'était assez fou.
Ok, et il y a qu'ici qu'on peut faire ça, hein, essayer 10 fifres par jour.
Mais c'est de la folie, mais je ne sais pas comment font les gens qui tiennent le stand par contre. ouais, c'était vraiment intéressant. Ouais, et même il y a plein de textures sonores entre l'os, le bambou, le. Botsuro, je sais pas. Pas encore, mais ça va arriver, hein, franchement. Et il y a des super conseils. Vraiment, c'est agréable. J'ai moi-même envie de me fabriquer des instruments maintenant en courge séchée. Voilà.
D'avoir une place au concert, vraiment important.
Parce que, là c'est un truc très très vaste, la musique traditionnelle ne se résume pas à la musique de danse. La musique traditionnelle est une musique fonctionnelle qui sert à des tas d'occasions. C'est super de se réjouir avec cette musique-là, mais elle peut tout faire, cette musique-là. Elle peut accompagner tout, et le concert est un moyen pour ça. Et pour aller encore plus loin, on regrette de ne pas avoir un autre endroit pour des concerts intimes.
Moi, je viens pour coller des autocollants. Ouais. Par exemple, en 2017, j'avais fait un autocollant I Love Branlou. Et ça a été un succès parce qu'aujourd'hui, le Branlou, c'est vraiment une danse qui se danse partout, quoi, en fait.
Et, grâce à
toi, en fait. Non, pas que grâce à moi, mais j'ai participé à cette grande œuvre qui est de remettre le Branlou sur le devant des parquets.